Donc Noélie Goulfer, donc conseillère pédagogique et formatrice académique REP+, premier degré à mi-temps, puisque le DAZEN du Rhône a fait le choix de consacrer un demi-poste de conseiller pédagogique pour être formateur académique REP+, puisque je sais que ce n'est pas le cas sur toutes les académies. Donc ma mission est de coordonner les formations sur les 4 REP+ départements du Rhône et d'intervenir ponctuellement aussi sur ces formations. Donc dans ce département du Rhône, hein, les REP+ concernent environ 320 enseignants du premier degré auxquels viennent s'ajouter ceux du second degré pour les formations. Comme dans d'autres académies, 3 jours de formation, 6 jours de concertation pour tous les enseignants du premier degré. Sur le Rhône, nous avons une brigade de 19 remplaçants REP+ spécifiques qui viennent donc assurer ces temps de concertation et de formation sur le temps scolaire. Plus une demi-journée par an de concertation école. Vu qu'ils sont 19, on peut se permettre de mettre une école entière en concertation une demi-journée sur l'année. Pour le second degré, une pondération de 1,1, ce qui correspond à 1h30 environ de temps déchargé, d'heures d'enseignement en moins pour les enseignants du second degré. Également pour se concerter et pour se former. Donc mon témoignage aujourd'hui, c'est vraiment par cette vision de formateur académique REP+. La demande qui m'a été faite, hein, c'est des dynamiques locales à impulser en intermétier, problèmes concrets et formation de formateurs. Alors moi, j'ai d'abord choisi d'isoler le mot local et intermétier. Local parce que pour moi, il était essentiel de tenir compte des spécificités du terrain, des besoins des équipes et de leurs demandes. Et ici, j'ai rencontré un premier obstacle dont nous avons parlé tout à l'heure, hein, c'est que les demandes des équipes ne correspondent pas forcément aux besoins identifiés, que ce soit par les CPC ou par les IEN. Et là, ce temps de reformulation ou de négociation qui peut exister entre la demande de formation et l'offre que l'on va apporter, ce temps-là est évidemment primordial pour que la formation soit efficiente, que ce soit positive. Dans la réalité, là, en ce moment, sur les REP+, c'est difficile de le mener, ce temps. Et on aboutit du coup à des formations qui sont peut-être pas, qui correspondent ni aux besoins ni aux demandes, mais j'en reviendrai dessus.
C'est très bien résumé.
D'autre part, bon, partir du local, c'est aussi tenir compte de l'existant. Dans le Rhône, c'est vrai qu'on a des réseaux qui fonctionnent depuis 33 ans, qui étaient dans les ZEP, les premières ZEP qui ont été créées. Donc c'est vrai qu'il y a une culture qui ne peut pas être la même qu'un réseau qui arrive dans les éclairs en 2011. Donc les habitudes de travail induisent une connaissance de fonctionnement des personnes qui peuvent être confortables, mais qui, pour les mêmes raisons, ont des limites. C'est-à-dire que changer des choses dans des histoires qui fonctionnent bien, ce n'est pas facile. Donc c'est important d'en tenir compte. Hein. Et ce qui me paraît essentiel, enfin ce qui me paraît comme un levier pour dans ces dynamiques locales, c'est bien cet intermétier. Alors pour moi, quand j'ai entendu ce terme d'intermétier l'année dernière, je l'ai traduit par l'ensemble des personnes, des différents statuts qui pouvaient intervenir, notamment en formation, comme tu l'as dit, hein, les CPC, les IEN, les enseignants, les coordonnateurs, les membres du réseau. Alors, après, comment se manifeste ce collectif? Alors, en dehors des textes officiels et du référentiel qui donnaient une grande place à ce collectif, pour moi, il a pris vie justement l'année dernière lors de ces fameux séminaires de formation dans le cadre des plus de maths que de classe, auxquels étaient invités les maîtres supplémentaires et les directeurs déchargés ce jour-là, même si apparemment les infos ne sont pas très bien passées. Le message qui était délivré ces formations-là, c'était passer d'une logique du je à celle du nous. C'est-à-dire comment chacun à sa place allait passer du je formateur, du je enseignant au nous. Alors en tant que formateur, pour moi, ce passage se traduisait par un changement au sein même de la mission principale. Hein, et c'était un passage passé de la formation à l'accompagnement. Le jeu formateur qui se modifie en se dirigeant vers un intermétier au sein duquel le formateur peut être autre chose en gros qu'un conseiller pédagogique ou qu'un PEMF. Au niveau de l'enseignant, c'était lui faire comprendre qu'il faisait partie d'un cercle au même titre que son directeur, que les membres du réseau ou que les CPC, et qu'à partir du moment où il faisait partie de ce groupe, de ce cercle, le sort de chacun était entre ses mains, et notamment le sort de celui qui était au centre du cercle, c'est-à-dire l'élève. et qu'un sentiment d'identité collective pouvait conduire à ce que chacun attende le soutien de l'autre, hein, et participe à la réussite du centre. Et le centre, du coup, devenait enfant, puisque dans les partenaires et membres du cercle, on faisait entrer les parents, notamment. C'était pensée collective pour s'éloigner, pensée cercle, pensée collective pour s'éloigner d'une pensée de pyramide avec à la base l'enfant, enfin l'élève, et au sommet l'institution. Donc ce message qui a été donné lors de cette formation était un message très fort, hein. Et la limite que j'y ai trouvée, c'était justement qu'il n'y avait présent que des enseignants supplémentaires, quelques directeurs. Et j'ai trouvé que le message était lourd à porter pour les enseignants au retour dans les équipes.
Si on leur avait demandé d'aller porter le message, oui, à ceux qui n'étaient pas là.
Voilà, c'est ça. Et je trouvais que c'était un message difficile à porter, en tout cas pas assez étayé pour qu'il puisse être pris en main par les équipes ou la majorité des équipes. D'où le problème, à mon avis, enfin la nécessité d'un accompagnement formatif. Alors pour revenir à des actions plus locales, je voulais vous présenter une action qui a été menée l'année dernière sur Vau-en-Velin, une école, l'école Gagarine à Vau-en-Velin. J'étais donc conseillère pédagogique et nous avons suivi une enseignante supplémentaire dans deux classes dans lesquelles elle intervenait en co-enseignement. Nous l'avons suivie, nous l'avons filmée, puis nous avons organisé des entretiens d'autoconfrontation croisée, c'est-à-dire que les trois enseignants concernés se sont observés sur des vidéos et ont analysé chacun les gestes de l'autre en notre présence. Et là, pour moi, il s'agissait bien d'un accompagnement au plus proche de leur pratique. On partait vraiment de leur vécu quotidien. Et il y a eu un réel échange, en plus un accompagnement au sein d'une équipe, puisqu'ils faisaient partie tous les trois de la même équipe, qui a été une véritable analyse réflexive, tant au niveau des gestes professionnels repérés par les enseignants, que par la question de la place de deux enseignants dans une même classe. Ça les a menés à un degré d'analyse remarquable sur leur métier. Vraiment, ils sont allés très loin dans l'analyse. La dimension d'intermétier ici s'est manifestée pour moi dans le rôle que nous nous sommes donnés en tant que CPC. Nous apportions un regard extérieur, pas forcément des connaissances, un regard extérieur avec peut-être un apport en termes d'analyse éventuellement, et les aider à mettre les mots sur ce qu'ils identifiaient uniquement. Intermétier par la place qu'on a laissée aux formés, puisqu'il s'agissait bien d'élargir la réflexion ensuite à l'ensemble de l'équipe, hein, pour que chacun puisse s'en emparer. Et puis également une reconnaissance institutionnelle à cette démarche, puisque les trois enseignants qui se trouvaient être inspectables cette année-là ont été évalués par l'inspecteur de la circonscription sur ce dispositif. C'est-à-dire que l'inspecteur... L'inspecteur a visionné les films, les autoconfrontations, puis les a entretenus tous les trois. Donc entretien collectif, l'inspecteur et les trois enseignants concernés, et ça a fait l'objet de leur rapport d'inspection. Donc pour eux, ça a vraiment été une reconnaissance de leur investissement, hein, de leur réflexion. Et
je mets pas le son, mais c'est juste pour que
c'est très déstabilisant en fait.
Non, j'arrête. Ouais.
Non, je plaisante. C'était, pour moi, c'est important que la hiérarchie se donne une place dans ce collectif, hein, pour que ça fonctionne. Donc, les enseignants témoignaient, hein, quand on est deux en classe, quand on est une équipe, on va plus loin, on ose, on prend du recul et on voit les élèves. Ils ont dit que le nous les rendait audacieux. Donc, je pense qu'en effet, c'est un levier essentiel pour que le passage dans le nous, dans ce collectif, rende après un je transformé plus fort. Quand on revient au niveau de l'enseignant, ils reviennent plus forts de ce passage au sein du collectif. Alors, j'oublie pas la fin de la commande, hein, qui a été problème concret et formation de formateurs. Alors, s'il faut parler concrètement des problèmes liés à la mise en place des formations, notamment dans le cadre des REP+, pour moi, se posent très vite des contraintes comptables liées au fonctionnement lui-même, c'est-à-dire l'organisation sur la base de ces 19 remplaçants pour assurer 3 jours de formation par enseignant. Avec en plus, si on veut ajouter la quadrature du cercle, qui prend toute sa dimension, 2 pilotages, premier et second degré, des formes de décharge différentes dans le second degré, des temps de décharge différents. Donc pour être synthétique, l'organisationnel prend une place extrêmement importante sur des grands réseaux, par exemple Vau-en-Velin, où il y a 110 enseignants concernés. les choses prennent une proportion difficile à gérer, beaucoup plus à mon avis que sur des petits réseaux, donc peut-être à réfléchir sur la taille d'un collectif pour qu'il puisse fonctionner. Et la taille d'un REP+, à mon avis, au sens large, pour qu'il puisse fonctionner en prévision de la, des multiplications qui viendront l'année prochaine.
Le paradoxe, ce que tu dis, c'est qu'il y a des moyens supplémentaires, mais que ces moyens supplémentaires ont apporté de nouveaux problèmes, des contraintes de gestion, d'organisation, etc. Et que si on n'y prend pas garde, ça va être ces contraintes de gestion et d'organisation qui peuvent prendre le pas sur l'activité des métiers intermédiaires qui sont chargés de piloter, de structurer, d'organiser.
Métiers intermédiaires, mais pas forcément les enseignants et les élèves. Après tout, c'est ce qui est important. Donc je ne sais pas s'il faut s'arrêter là.
En termes de problèmes de travail pour la Circo, par exemple, tu dis le fait d'avoir à faire les plannings des remplaçants...
C'est un casse-tête effroyable de faire le planning de remplaçants, de gérer les formations elles-mêmes. Sur le département du Rhône, le premier stage REP+ a eu lieu le 29 septembre, avec des premières concertations qui ont eu lieu le 3-4 septembre. Donc vous imaginez bien l'ampleur pour organiser un stage de formation d'une semaine et pour faire remonter des besoins de formation via la DAFOP pour un stage qui avait lieu 15 jours après. Donc c'est vrai que c'est bien difficile à organiser. Bon, après, on est préfigurateur. Donc les choses vont se mettre en place. J'ai bon espoir que... Mais je pense qu'il faut quand même être vigilant sur la taille de ces réseaux pour qu'ils puissent fonctionner correctement, quoi. Qu'ils ne soient pas parasités par ce genre de contraintes. Après, sur le contenu des formations, ils ont été très divers d'un réseau à l'autre. Même s'il y a des thèmes récurrents qui reviennent, tels que la co-intervention, le multilinguisme, la lecture. Et les obstacles rencontrés... lors des contenus eux-mêmes, c'est l'interdegré. C'est-à-dire que c'était aussi une richesse, c'était aussi un obstacle. Tous les enseignants, à l'issue du premier stage REP+, ont été unanimes pour dire que ce qu'ils avaient apprécié en premier lieu, c'était les échanges avec les enseignants d'un autre degré. Ça, vraiment, c'était unanime. Mais en même temps, ils se sont parfois ennuyés sur des contenus qui ne concernaient pas directement leur propre niveau. Donc, difficile de proposer des formations. Après, je pense que la solution, c'est des thèmes transversaux qui puissent être travaillés sur tous les niveaux d'intervention. Mais tous les thèmes ne s'y prêtent pas. Nous avons été vigilants aussi à faire intervenir des formateurs premier et second degré pour que chacun se sente davantage concerné. Au final, dans l'évaluation du stage, les enseignants sont en demande de temps de rencontre pour créer des outils communs et pas tellement de formation commune. C'est ce qui est ressorti des échanges.
Qu'est-ce que ça veut dire ça? On a besoin de temps.
Ils veulent du
mais
temps.
Mais pas de formation. Alors du coup, ça réinterroge peut-être le mot formation.
Oui, voilà. Ils veulent pas une formation qui descende du sommet de l'institution, même si on n'avait pas l'impression de leur présenter de telle sorte. Là, ils veulent du temps entre eux pour pouvoir échanger. Voilà. Après, on en revient au début, entre les besoins et les demandes, le dilemme. Qu'est-ce qu'on fait en tant que formateur ou en tant qu'inspecteur, en tant que pilote? Est-ce qu'on entend ça? Est-ce que ça veut dire que les gens qui n'ont pas envie de se former, on les laisse là-dedans? Ou est-ce qu'on influe quelque chose? Je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse. Après, forcer quelqu'un à se former, est-ce que c'est réellement efficace? Voilà, je n'ai pas la réponse. En tout cas, ce qui s'en dégageait, c'était un désir de collectif de travail, ça c'est certain. Après, sous la forme... Alors pour conclure, je dirais que le dispositif des REP+ donne des possibles pour une création de collectif, parce qu'il y a enfin du temps reconnu, ce qui n'existe pas forcément dans les RRS, et ce temps reconnu, institutionnellement, est primordial. Même si c'est une entrée, on va dire, organisationnelle, je pense, ça déclenche beaucoup de choses, ça permet de libérer ce temps pour travailler ensemble. Moi, j'aspire à ce que ce collectif s'élargisse, notamment aux familles. Parce que quand on parlait tout à l'heure des besoins qui avaient été repérés, nous, en tant que formateurs, on a repéré un besoin, à notre avis, par exemple, de travail sur les relations aux familles. Donc que le collectif s'élargisse pour peut-être changer le regard aussi des enseignants sur l'ensemble des partenaires. Par contre, je me questionne sur la réelle plus-value du dispositif, c'est-à-dire sur l'efficience de moyens énormes mis en œuvre. Est-ce qu'il y a une plus-value ? C'est-à-dire, moi, j'aimerais pouvoir me dire, alors moi, j'aimerais bien qu'il y ait une évaluation, mais juste pour pouvoir avoir des arguments et pouvoir dire, ces 19 brigades, ils sont mieux employés à décharger du temps de formation qu'à ouvrir des classes ou assurer les enseignants malades. J'aimerais avoir des arguments pour être vraiment sûre de le dire, parce que à l'heure actuelle, j'en suis pas certaine. Je ne suis pas forcément convaincue. D'autre part, les axes du référentiel, hein, que ce soit celui sur le travail collectif ou sur l'école bienveillante, mon avis devrait être étendu à l'ensemble du territoire. Je ne suis pas sûre que ce soit en éducation prioritaire que la bienveillance soit la plus absente du paysage scolaire. Donc faire réussir les élèves à l'éducation prioritaire en accueillant, en accompagnant les personnels de façon plus forte qu'ailleurs, oui, évidemment. Expliciter davantage les enseignements, oui, parce que les élèves d'éducation prioritaire n'ont pas les codes pour les expliciter eux-mêmes, bien sûr. Par contre, le collectif de travail, à mon avis, est un moyen d'action sur l'ensemble du territoire et dans tout type de population d'éducation. Je pense que ça pourra passer par une organisation du travail différente, avec du temps reconnu pour cela. Et c'est justement, à mon avis, ce point d'appui qui semble essentiel pour un changement des pratiques, s'il est reconnu et s'il est dans une dynamique d'accompagnement. Voilà. Merci.
Alors, merci à nos deux collègues, hein, aussi d'avoir parlé clair et sans langue de bois, même si on est en retard. Je voudrais qu'on puisse avoir ce temps de partage avec eux et que vous puissiez réagir. Poser des questions, discuter, mais aussi réagir tout simplement. Est-ce que nous aussi, on est dans un temps de formation où on perd notre temps et où on ferait mieux de vous faire autre chose sur vos territoires qui sont urgentes ? C'est toujours la vraie question de la formation, mais je le dis sans boutade, parce que quand on organise une formation, on n'est jamais sûr que cette formation soit efficace. Hein. Moi, je dis toujours, organiser une formation, c'est d'abord lutter contre les formations précédentes qui n'ont généralement pas tenu leurs promesses. Et vous savez bien, on vient à une formation en disant « Ah ben j'espère que ce sera mieux que la dernière fois » parce que, je dis « on », peut-être pas vous, mais beaucoup d'enseignants hein, ont cette posture-là. Du coup, je viens d'afficher un travail qu'on a fait là sur c'est quoi finalement organiser une formation ? Et je vous propose de peut-être faire tourner ça aussi, hein, c'est qu'une manière de problématiser, mais une formation ça a des buts. Et du coup, les buts d'une formation, peut-être qu'il faut arriver à les identifier, parce que, encore une fois, si on ne sait pas ce qu'on fait en formation, du coup, on ne sait pas ce qu'on va demander comme compétences aux formateurs, et du coup, on va se poser la question de, est-ce que la formation, elle est utile, ou est-ce que les gens, ils veulent juste du temps pour parler boulot ? Ah bon, bah, parce que la formation, c'est pas un temps pour parler boulot ? Ben oui, des fois, ça arrive que la formation, ça soit juste prescriptif, hein, où vous faites des jolis PowerPoint. Donc, je vous propose de poursuivre hein, avec ce que les collègues nous disent, mais encore une fois, en discutant, en réagissant.
Bonsoir, Françoise Muller, je suis professeure documentaliste en collège à Montpellier. Je vous remercie beaucoup de toutes ces informations, mais j'avoue que je reste un peu sur ma faim, parce qu'en collège, on a d'autres préoccupations. À ma connaissance, pas de coordonnateur, on a des professeurs référents.
Si vous avez des coordonnateurs... Le coordonnateur, il travaille au niveau du premier et du second degré.
Ok.
Mais je veux dire, ce que vous dites est représentatif. Hein,
Et voilà. Et j'en dirai d'autres certainement. Ce que je voulais dire aussi, c'est que nous avons, alors en REP+, on a un gros souci de travail en équipe qui est aussi lié à la lecture qui est faite de cette fameuse pondération. Voilà. Et j'avoue que j'espère, avant de partir d'ici, avoir un certain nombre de réponses, sinon d'échanges sur le sujet.
Marc en a parlé un petit peu ce matin, sur la question de la différence de lecture entre les individus dans le second degré, sur à quoi ça sert la pondération.
Et qui bloque vraiment le travail en équipe actuellement.
C'est peut-être plus à Michel qu'à moi de répondre, mais je vous propose qu'on retravaille cette question-là. Demain matin, on aura des collègues du second degré qui témoigneront. Et donc, effectivement, là, on a des témoignages qui, globalement, concernent le premier degré. Mais effectivement, la question du travail collectif, la question de l'interdegré, la question des métiers intermédiaires, elle se pose exactement de la même façon. La question du temps, elle se pose exactement de la même façon. Sauf que la définition que les uns et les autres font du temps de service n'est pas forcément la même.
Je peux donner un exemple. Ah, pardon.
Vas-y.
Non, un exemple très concret sur Vaux-en-Velin. Le principal a donné, enfin, je ne sais pas comment il s'est organisé au niveau de ses heures, mais chaque enseignant de maths et de français qui ont des élèves de 6e ont 1h30 à consacrer dans une école du réseau par semaine. Et en dehors de ça, ils ont des concertations, même des formations chaque semaine sur un temps précis avec des thèmes différents.
Non, sur la pondération, c'est vrai qu'il y a un... Il y a des points de vigilance à avoir, il y a des sensibilités qui s'expriment, etc. En tout cas, ce qui est clair, c'est quand même que la pondération au collège n'est pas une réduction du temps de service. Très clairement, et dans le décret, c'est bien marqué comme ça, c'est bien un temps de cours devant élèves, de présence devant élèves qui est certes diminué, puisqu'il passe de 18 à 16h30 en gros. Mais ça n'allège pas le temps de service des enseignants, puisque ce temps dégagé doit servir finalement à un équilibre un petit peu différent, c'est-à-dire qu'il doit être consacré à des travail en équipe, à organiser le suivi des élèves, etc. Donc c'est vrai qu'il court parfois des... Bon, il y a des personnes ou des mouvements qui essayent d'interpréter ça en disant le travail est difficile en REP plus, donc on a une réduction du temps de service parce que c'est un travail compliqué, c'est une reconnaissance de la difficulté du travail, point à la ligne. Pas du tout, pas point à la ligne. C'est une organisation différente du temps de service, mais pas une réduction du temps de service. Donc ça, c'est clair. Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas... Après, voilà. Une fois qu'on a dit ça, ça veut dire qu'il y a effectivement parfois une sensibilité particulière qui fait que certains ne veulent pas voir organiser ce temps et qu'il soit complètement laissé au libre choix et à libre organisation des enseignants. Disant on n'a pas à m'imposer ceci ou cela, je fais ce que je veux, liberté pédagogique aidant, on n'a pas à m'imposer quoi que ce soit. Donc là, si j'étais Marc Babli, je vous dirais que je vais faire du Marc Babli dans le texte, c'est-à-dire que là c'est vraiment une question de, je dirais, de rapport au sein des collèges pour arriver à, dans une négociation et dans une négociation bien articulée et bien menée, essayer de passer en fait le message que sans organisation, travail collectif est quand même très difficile, et donc une organisation, ça s'impose de toute façon, une organisation, une facilitation, une mise en place de créneaux où les gens peuvent se voir, une organisation des thématiques, enfin simplement pour que ce soit efficace. Donc il y a ça à mener de manière douce et délicate, mais je pense aussi sans baisser les bras et sans baisser les bras sur ce que c'est vraiment.
D'ailleurs, Monsieur Vasse va le dire son point de vue de chef d'établissement là-dessus, ou peut-être autre chose.
Non, c'est bien là-dessus. C'était pour donner un petit peu un exemple à la collègue de ce qu'on a mis en place cette année. Donc le temps de pondération est dans les emplois du temps des enseignants. Tous les enseignants ont du temps dans leur service pour se réunir. Nous, on a fait le choix de donner du temps par niveau de classe. Lundi, mardi, jeudi, vendredi, 6e, 5e, 4e, 3e. Tous les enseignants de chaque niveau sont libres 1 heure par semaine. Donc se sont réunis sur cette première partie de l'année... Effectivement, quasiment chaque jour de la semaine pour un enseignant, par exemple, d'éducation musicale qui a toutes les classes. Et ce temps-là, il pourra se le dégager un peu plus tard, puisque là, on était sur des réunions de mise en place de projets et de travail collectif sur de la gestion de classe aussi. Voilà, ça s'est basé sur la confiance. Ils savent que, en gros, un enseignant doit, entre guillemets, je dis bien doit, entre guillemets, 48 heures par an. À eux un peu de comptabiliser ce qu'ils font, ce qu'ils ne font pas. Ils nous font des comptes rendus, on n'a rien demandé, ça se passe comme ça. Mais il est vrai qu'on avait déjà instauré dans notre collège ce climat de confiance et de travail collectif. On en avait parlé au mois de mars et on a sauté sur l'occasion de la pondération pour formaliser ça et tout le monde est content.
C'est vrai que c'est dans le pilotage hein, que ça joue. Ça ne veut pas dire juste renvoyer la balle sur la... solitude des chefs d'établissement qui devraient être tellement bons experts de la relation humaine qu'ils arriveront à sortir des conflits. Il y a un changement de culture qui est très net et qui est plus fort dans le second degré, c'est une évidence. Après, je pense qu'il y a aussi beaucoup d'enseignants du second degré qui sont demandeurs de temps de travail, juste.
Oui. Sur la question justement de la pondération du temps de travail, il y a des textes qui ne sont pas tout à fait identiques dans les contenus. Donc il y a suivi des élèves, travail collaboratif, relations avec les parents, les partenaires. Et quelquefois, il y a temps de formation. Et il y a formation. Et ce qui n'est pas clair pour nous, c'est est-ce que les 3 jours de formation en REP+ sont inclus dans ce temps de pondération ou est-ce que c'est en plus de... Pardon ? C'est inclus. Voilà. C'est-à-dire que sur ces temps de travail, il faut penser qu'il faut aussi libérer les enseignants pour 3 jours de formation qui sont la mesure 7, hein, je crois, ou la mesure 8. Voilà. Et ça, il y avait un peu de flou, je dirais, parce que suivant les textes qu'on lit au GO, au BO ou dans le référentiel, c'est pas tout à fait la même chose. Et non, enfin bon, on imagine bien, vu la charge de travail que ça demande d'organisation, les 3 jours de formation auxquels ont droit les enseignants de REP+ est inclus. Il faut l'inclure dans leur temps de pondération libéré.
C'est inclus et. Bon, cette question-là de la formation, elle est intéressante parce que je rebondis aussi avec ce que vous venez de dire sur finalement, on voulait pas vraiment de la formation, Dixit les enseignants, on voulait du travail ensemble et donc Patrick qui dit mais travailler ensemble et réfléchir à ses pratiques, est-ce que c'est pas de la formation? Ça pose bien aussi la difficulté d'établir une frontière très très étanche entre ce qui est du travail collectif et ce qui est de la formation. Ça n'est pas si c'est pour ça qu'il y a pas on a dit 3 jours, l'équivalent de 3 jours, etc., parce qu'il faut bien poser à un moment donné des repères et dire un peu des choses, mais c'est quand même je pense que dans la réalité c'est plus compliqué que ça. Et un travail comme on l'a vu tout à l'heure, expliciter un travail avec un chercheur ou un formateur au long cours sur le lire écrire, c'est du travail collectif, c'est de la formation, c'est les deux en même temps, donc c'est compliqué à vraiment
Stéphane. Je voulais juste dire 2 mots. On parle là des REP+, c'est le problème du travail collectif dans un collège en REP+. Moi, j'allais dire que, quelque part, c'est pas plus compliqué que ce qui est très compliqué dans tous les collèges, qui est de dépasser la division du travail dans les collèges entre le travail éducatif et le travail d'enseignement. Et ça, c'est une question qui est pour moi qui est majeure. Et on a donné 2-3 petites pistes qui me semblent être intéressantes pour un collège. C'est quand on partage un petit peu le métier des autres, qu'on peut commencer à travailler avec eux. Quand un CPE vient passer un petit moment dans un temps de classe, quand un enseignant vient passer un petit temps à la vie scolaire, quand je sais pas, on a parlé aussi des 2 degrés, quand un IUN vient passer un temps dans une classe au collège pendant 1 heure ou 2, c'est à partir du moment où on vient partager le métier de l'autre qu'on peut commencer à travailler ensemble. Mais tant qu'on reste dans une division du travail, forcément, c'est ce qui va ressortir pour ce problème de la pondération REP+ comme sur d'autres, c'est d'abord du conflit.
Du conflit parce que discuter du boulot, c'est déjà, ce matin Françoise l'a évoqué très vite, hein, discuter des critères de ce que c'est du bon boulot. J'ai pas le temps là, et peut-être demain matin un petit peu, mais je voudrais quand même qu'on garde ça en perspective. Dès qu'on développe du travail collectif, on développe du conflit de normes. Entre ce que vous pensez qui est bien pour le métier et ce que vous pensez qui est bien pour le métier, c'est bien parce qu'on n'est pas tous pareils, qu'on a des façons différentes de penser la qualité, le critère de la qualité. Il peut y avoir des enseignants qui pensent que le critère de la qualité, c'est d'avoir une classe calme et qu'il faut virer tous les gamins qui font du bruit. Cette norme, elle n'est pas ridicule. Parce que si vous êtes 10 à faire vos mails, ça va dans cette séance. Si vous êtes 80 à faire vos mails, ça ne va plus. Qu'est-ce qui est acceptable en termes de normes de travail dans une formation d'adulte sur « j'accepte un peu de travail clandestin » ? Vous voyez ? C'est une question que n'importe quel formateur s'est déjà posée. Est-ce que j'accepte que les gens envoient des SMS, lisent leurs mails, discutent ? Est-ce que quand il y a ça... c'est du travail clandestin ou pas? Bah, moi, je considère que ça fait partie de normes qui sont discutables. Entre formateurs, on peut discuter de est-ce que tu trouves intolérable que les gens utilisent leur smartphone pendant une formation? Vous voyez, des choses toutes bêtes. Discuter des critères de qualité dans le travail, ça fait partie du travail. Et donc, évidemment, apprendre à s'empailler sur ces choses-là, c'est pas naturel. On a toujours tendance à dire que Si les autres sont pas comme moi, c'est ça qui va pas. Donc, la question de comment on élabore des formations, à quoi ça sert les formations, qu'est-ce qu'on fait dans les formations? Et je le répète, en quoi une formation s'est organisée avec une seule question? Est-ce que ce qu'on va faire dans la formation, ça va répondre à une préoccupation professionnelle des gens qui viennent dans la formation? Est-ce que ce que les gens qui sont à la tribune vont dire, c'est juste pour qu'ils fassent les malins à la tribune, ou est-ce que c'est dans l'espoir que ça ait un impact sur l'activité des gens? C'est jamais sûr. Les choix qu'on a faits pour aujourd'hui et pour demain, c'est des choix qui sont questionnables, qui sont discutables. Et on ne sait jamais, quand on organise du travail collectif, Noélie a insisté sur le fait que les demandes, les besoins, c'est pas la même chose. Mais des fois, on s'organise d'une telle manière qu'on répond ni aux demandes ni aux besoins. Ça a été sa phrase. Et moi, je la retiens parce qu'elle est très éclairante. Parce que des fois, les contraintes technico-bureaucratiques sont telles qu'on le perd de vue, ce bon Dieu de sens qu'on cherche depuis tout à l'heure. Et c'est toujours une gageure pour quelqu'un qui organise quelque chose, qui organise du travail d'enseignant, qui organise des formations, de se dire, est-ce qu'on va bien faire quelque chose au service des gens auxquels cette action est destinée? Et pas au service de la résolution des problèmes des gens qui l'organisent. Il y a toujours une façon dans le travail de se dire, quand j'ai organisé le boulot, que les tableaux sont faits, que les grilles sont remplies et que le travail est distribué, alors le travail est fini. Or, ça ne garantit rien de la qualité. Donc, c'est une question qui est très difficile. Hein. Je ne sais pas si on la prend par le bon bout, je ne sais pas si on l'organise par le bon bout. Mais si on veut réfléchir au travail collectif, nous, en tout cas, on essaye de réfléchir aux critères d'un bon travail collectif. Alors, on n'est pas modeste, hein. On s'est dit qu'on avait fait un espèce de référentiel des buts en formation, mais on pourrait dire en situation de travail collective. Est-ce que connaître le prescrit, quelqu'un l'a dit ce matin, ça fait partie du travail de formation? On va lire ensemble les textes, on aura un espace pour ça. Je ne vais pas refaire l'ensemble des détails, il me faudra une demi-heure, mais je pense que c'est cette question-là qui est la plus importante pour se dire qu'est-ce qu'on fait dans la formation. Parce que trop souvent, la formation, c'est organiser des temps, des lieux, des grilles, des espaces. Et quand on a déjà fait ça, c'est déjà tellement de boulot pour le faire, hein, je jette la pierre à personne, qu'après, la question du contenu, de ce qui va s'y passer, ça s'est bien passé, oui, ils ont été gentils. Ben ça, on ne l'accepte pas des enseignants aujourd'hui. On n'accepte pas des enseignants que leur critère, ça soit le maintien de l'ordre. On dit, non seulement il faut que tu aies à peu près le silence, ou quelque chose d'à peu près correct, mais il faut qu'ils apprennent quelque chose. Ben, on ne se le dit pas encore dans la formation des enseignants. Hein. Parce que c'est très difficile. Parce que vous-même, si je vous interroge un par un, et j'ai souvent les uns et les autres au téléphone qui me disent, je n'en peux plus. Parce que, entre ce que j'arrive à faire et ce que j'aimerais faire, c'est tellement éloigné. Je ne veux pas plomber l'ambiance, mais je voulais vous réveiller un peu, parce que c'est compliqué ce qu'on est en train de faire. Alors, je ne suis pas sûr que les témoignages soient suffisants pour structurer. Et je comprends bien que chacun vient toujours dans une formation avec l'envie qu'on réponde à ses questions. Est-ce que je peux repartir d'ici avec quelque chose qui va faire que les profs qui... je vais pouvoir leur dire non, sans doute pas. Il y a sans doute assez peu de chances pour que vous repartiez d'ici avec la résolution de vos problèmes. Par contre, si vous avez déjà un peu identifié vos problèmes et fait la cartographie des dilemmes de métier qui sont les vôtres, là, on aura, je pense, gagné un petit peu de temps.